Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour ce deuxième dialogue de ces sessions autour des Jeux Olympiques au Collège de France. Nous allons nous arrêter sur ce qui unit à l'époque contemporaine la performance, la notoriété et la publicité, bref, sur la célébrité des sportifs. Comment les sportifs, qu'ils soient boxeurs, qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient rugbymen ou de toutes les autres disciplines sportives qui sont nées au cours du XXe et au début du XXIe siècle, ont-ils pu devenir, au tournant du XIXe et du XXe siècle, des figures publiques si importantes pour qu'on s'en arrache les effigies, qu'on s'en arrache parfois les vêtements, qu'on leur demande des autographes, qu'on se photographie régulièrement avec eux, seuls ou en groupe, pour qu'on les paie aussi cher, voire plus cher que les plus hauts de nos cadres d'entreprise? Ce sont les questions que nous allons aborder avec nos deux invités, avec Antoine Vilty. Vous le connaissez, il est professeur au Collège de France et il a écrit un grand livre sur cette question de la célébrité, l'invention de la célébrité, figure publique, qui a été republié récemment en poche, je crois que c'était l'année dernière. Et puis nous avons avec nous Manuel Chautet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Lille et vous avez publié un grand livre lui aussi qui s'appelle « La valeur du footballeur, une socio-histoire d'une production collective ». C'était en 2022 au CNRS. Nous allons donc parler de célébrité, de notoriété. Est-ce que, tout de suite, pour commencer, cette notion est une notion historiquement située, pourrait-on dire, et comment peut-on la situer en Colombie?
Ah oui, alors on peut la situer assez précisément au XVIIIe siècle. Là, il y a un écho, non? Vers le... Vous me dites, hein, si vous m'entendez pas, vous me faites des gestes. Dans la deuxième moitié, à peu près au milieu du XVIIIe siècle, il y a vraiment un écho, non? Ou c'est moi qui est le retour? Non, c'est bon. Donc effectivement, c'est une notion qui a une histoire, la notion même, et puis ce qu'elle désigne, puisque bon, on y reviendra plus longuement tout à l'heure sans doute, mais les mécanismes hein, de ce qu'on appelle la célébrité, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens, ce que j'appelle la célébrité, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont, c'est pas seulement qu'il y a des gens qui sont très connus, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement connus au-delà des espaces normaux de leur activité. Donc, par exemple, pour prendre l'exemple d'un sportif, je considère qu'un sportif, on dit que c'est une célébrité à partir du moment où il est connu par des gens qui ne s'intéressent pas spécialement au sport qu'ils pratiquent. J'imagine que vous n'avez pas besoin d'être des supporters du PSG pour savoir qui est Kylian Mbappé, par exemple. Donc là, on va parler de célébrité. Alors ces mécanismes-là, le fait d'être connu très largement par des gens qui ne vous ont jamais rencontré, que vous ne rencontrerez jamais, mais qui savent beaucoup de choses sur un individu, qui sont capables de reconnaître son image, ça date du XVIIIe siècle, avec le développement de la presse, avec le développement des portraits gravés qui circulent, avec le développement d'une curiosité, d'une attention, d'un intérêt pour la vie privée, c'est aussi un élément sur lequel on viendra sans doute, des gens célèbres. Alors, à l'époque, c'est peu des sportifs, parce que le sport professionnel n'existe pas, il y a essentiellement une exception, j'y reviendrai plus tard, mais ce sont des comédiens, ce sont des danseurs, des chanteurs, ce sont aussi des écrivains, ce sont des philosophes, ce sont des gens en fait qui ont un rapport au public, ce sont tous les gens qui produisent pour un public et qui par conséquent deviennent des figures publiques, des célébrités. Et juste un mot, c'est pour dire que la notion même apparaît à ce moment-là, c'est-à-dire que le terme en français, mais c'est pareil en anglais, le terme célébrité apparaît, enfin prend ce sens au milieu du XVIIIe siècle, et dans toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on se met à commenter ce que c'est que la célébrité. Il y a un célèbre aphorisme de Champfort, cet auteur moraliste de la fin du XVIIIe siècle, qui dit « La célébrité, c'est l'avantage d'être connu des gens qui ne vous connaissent pas. » Ce qui, évidemment, paraît être un paradoxe, en fait, veut dire que on peut connaître quelqu'un parce qu'on a entendu son nom, on connaît son image, on sait des choses sur lui sans l'avoir jamais rencontré.
Alors ces célébrités de l'époque, elles existent parce qu'il y a une sphère publique qui se crée, qui se développe, que ce soit dans la ville par les libelles, que ce soit dans les salons sur lesquels vous avez déjà travaillé en tant qu'historien. Tous ces endroits sont des endroits, des sortes de tambours de la célébrité qui permet à cette célébrité d'une personne d'aller beaucoup plus loin que ce qui existait auparavant.
Oui, pour qu'il y ait célébrité, en fait, il faut qu'il y ait un espace médiatique, pour le dire. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait... Alors, médiatique, c'est quoi? Ce sont des dispositifs qui permettent de faire circuler l'information, et donc aussi le nom d'une personne, mais aussi des récits sur lui, bien au-delà du cercle des gens qui vont le rencontrer. Or, avant le XVIIIe siècle, au fond, on est quand même dans des sociétés d'interconnaissance, où on connaît les gens qu'on a rencontrés. Alors c'est évidemment vrai dans les espaces villageois, mais même dans les villes, au fond, on connaît les gens avec qui on est en relation. Là, les médias, et donc ça va être notamment la presse au XVIIIe siècle, hein, le XVIIIe siècle est le grand siècle de développement des journaux, alors essentiellement d'abord à Londres, hein, en Angleterre, avec des dizaines de quotidiens, mais aussi en France, hein, le premier quotidien français, qui s'appelait donc a été créé, le Journal de Paris a été créé dans les années 1770. Donc on a vraiment un développement d'un espace médiatique, et cet espace médiatique il produit, donc, comme vous disiez, une chambre d'écho, donc un espace véritablement de nouvelles communications, des communications à distance qui permettent ces phénomènes de célébrité.
Et puis, pour en ajouter encore, justement, sur cette célébrité, elle peut passer aussi par des objets, par la manufacture d'objets, des assiettes, des tasses, ce qu'on appellerait des goodies aujourd'hui, font partie justement de cette possibilité d'être célèbre. Et là, ce sont des personnages, alors vous l'avez dit, des comédiens, ça peut être Jean-Jacques Rousseau, ça peut être Benjamin Franklin, qui est une curiosité se promenant dans Paris à la veille de la Révolution française. Tout cela, ce sont des personnes qui ont leur effigie, qui partent des objets divers et qui sont vendus dans toute la France, voire dans toute l'Europe.
Oui, absolument. Donc ça circule. Alors c'est le phénomène le plus nouveau et le plus massif, c'est avant même cette culture matérielle, ce sont les portraits. Et ça, c'est très nouveau. Avant, on n'a pas de portraits. On a très, très peu de portraits. Le portrait, c'est officiel. À partir du XVIIIe siècle, on a des portraits gravés qui vont circuler beaucoup plus largement. Par exemple, le grand comédien anglais qui s'appelle David Garrick, on a plus de 200 portraits différents de lui, alors que les comédiens du XVIIe siècle, c'est au mieux, on en a un ou deux. Et ces portraits, ils vont se diffuser effectivement un peu partout en Europe. Et donc, portraits, mais aussi effectivement toute cette culture matérielle que sont les tasses, les papiers peints, les médaillons, donc tous ces éléments qui font qu'une figure... Vraiment, le portrait, la ressemblance est souvent pas exacte, mais en tout cas, certains éléments qui caractérisent le personnage, par exemple Jean-Jacques Rousseau, avec sa toque de fourrure et puis son habit, ce qu'il appelait son habit d'Arménien, eh bien on le reconnaît immédiatement, même lorsque la ressemblance des traits n'est pas parfaite.
Alors, quand vous entendez, en tant que sociologue, historien, vous raconter la naissance de la célébrité, Manuel Chautet, qu'est-ce que ça fait comme écho dans votre propre travail de sociologue, et en particulier sociologue travaillant sur la valeur des sportifs et la valeur des footballeurs?
De fait, ce qui vient d'être évoqué, et puis généralement les travaux d'Antoine Litti ont été très utiles pour moi, pour m'aider à penser finalement cette situation très atypique des sportifs aujourd'hui. Donc je travaillais sur le cas des footballeurs, qui ont cette particularité, hein, ça a déjà été dit, finalement d'être des figures publiques, c'est-à-dire connues de personnes qui... de tout le monde en fait. On estime aujourd'hui que la personne française la plus connue au monde, c'est Kylian Mbappé. De la même façon que dans les 80...
À moins que ce soit Aya Nakamura, mais sans pour
en En tout cas, c'est vraisemblablement pas le locataire de l'Élysée qui est le Français le plus connu au monde. Une illustration de cela, c'est que dans le palmarès du Time en 2023, parmi les 100 personnes jugées les plus influentes au monde, il y a un Français, et ce Français, c'est Kylian Mbappé. Alors, l'influence, c'est pas la célébrité, mais on peut dire que pour arriver dans ce type de palmarès, qui d'ailleurs en dit sans doute plus sur les catégories de perception de ceux qui le produisent que sur la réalité qu'ils prétendent décrire, atteste en fait l'importance aujourd'hui accordée aux footballeurs. Donc là, en termes de visibilité d'une part, mais aussi, ça a été dit un peu en introduction, en termes de revenus. Mbappé est aussi vraisemblablement le Français, le salarié français le mieux payé actuellement. On a des données qui datent de 2020 qui montrent que parmi les 100 salariés les mieux payés en France, il y a 26 sportifs. Et de fait, plus on se rapproche du top de ce top 100, eh bien plus les sportifs sont nombreux. Et voilà, ordre de grandeur en termes uniquement de salaire. En plus, il y a les sponsors, il y a les droits à l'image. Rien qu'en salaire, Mbappé a plus de 70 millions de salaire par an, ce qui est largement supérieur par exemple à Pouyanné, le PDG de Total. donc qui donne une illustration de cette particularité qu'ont les footballeurs, en tout cas certains d'entre eux, de conjuguer à la fois très grande célébrité, mais aussi richesse.
Alors, puisque le cas de Kylian Mbappé a été abordé, vous m'avez fourni un article dans un moment particulier qui est le moment de ce qu'on appelle le libé des historiens. C'est à la veille du début des rencontres d'Histoire de Blois, des rendez-vous de l'Histoire de Blois. Libération, depuis pas mal d'années désormais, demande à des historiens d'écrire des articles. Et à l'orée de la célébrité, pourrait-on dire, de Kylian Mbappé, c'est-à-dire en 2017, vous aviez écrit un article, Antoine Vinti, sur ce personnage-là, mentionnant que c'était de l'extérieur d'ailleurs que cette notoriété allait être fournie et construite, puisque c'était Gary Lineker, qui était un grand commentateur de football, mais un ancien grand joueur britannique, qui disait, quand il avait vu Kylian Mbappé sur les terrains de foot, et alors qu'il était tout jeune, 17 ans, 18 ans, c'est la prochaine superstar globale. Et vous faisiez tout un article justement sur Kylian Mbappé comme nouvelle superstar globale. Vous pouvez nous en dire justement les traits de cette superstar globale qui était déjà Mbappé en 2017.
Alors d'abord, je vous remercie de citer cet article qui est mon unique titre de légitimité à participer à cette séance. Parce que c'est ma seule incursion dans le domaine des études sur le sport. Et c'est un petit article de journal. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fourni. Parce que sinon, je me disais, mais qu'est-ce qu'un historien du XVIIIe siècle vient faire dans un débat sur les célébrités sportives? Donc voilà. J'ai cette petite chose. Voilà, ce qui m'avait intéressé, pourquoi ? Alors, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est une sorte de petit jeu où on demande aux historiens de s'inventer journaliste. Et ce qui m'intéressait avec le phénomène de Mbappé, c'était aussi de retrouver des éléments, effectivement, que moi, j'ai vu décrits de manière générale sur le XVIIIe siècle, à propos plutôt effectivement de comédiens, d'écrivains, d'artistes, etc. Et là, de les voir en fait à une échelle qui n'a plus rien à voir, totalement démesurée, celle du star system contemporain et de la performance, mais de les voir, de les reconnaître. Et notamment, ce qu'on pouvait reconnaître, c'est effectivement cette articulation entre de la performance, parce que déjà, très tôt, Mbappé, c'était ses équipes de jeunes, presque tout le monde l'avait repéré. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas juste dire, ah, mais c'est quelque chose qui est totalement fabriqué après coup. Et en même temps, il y avait un énorme travail, un investissement, qui était effectivement un investissement du commentaire, qui était un investissement de ses agents, des entraîneurs, des organisateurs. Et puis, il y avait aussi ce qui m'avait frappé, ce que j'avais lu à l'époque. C'était, donc il était encore très jeune, c'était l'idée qu'il y avait un énorme travail que lui-même avait investi sur le fait de gérer sa future célébrité. Et alors notamment, il y avait des commentaires qui disaient, enfin des témoignages, parce qu'à l'époque, on pouvait encore assez facilement avoir des témoignages de sa famille ou des gens qu'il avait fréquentés, qui disaient que quand il était dans les clubs de jeunes, après l'entraînement, il avait 13, 14 ans, il s'entraînait à répondre aux questions des journalistes. Vous imaginez, donc il a 13 ans et donc il fait des fausses interviews. Alors après, ses copains, eux, ils vont jouer au baby-foot et lui, il reste et il s'entraîne à faire des conférences de presse. Ce qui fait que quand il est arrivé à 17 ans, 18 ans, à Monaco, qui commençait à gagner, il était aussi un formidablement déjà bon client. Et je rappelais aussi qu'à ce moment-là, on avait commencé à dire « c'est le petit Obama ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire le petit Obama? Maintenant, on a un peu oublié parce qu'on ne fait plus cette comparaison, mais c'était deux choses. C'était à la fois le fait qu'il parlait très bien, alors, il ne parlait peut-être pas aussi bien qu'Obama, mais enfin, en tout cas, pour un footballeur professionnel, il tranchait avec les formes habituelles d'expression parce qu'il s'était entraîné très tôt et parce qu'il avait très tôt conscience que ça faisait partie de son métier.
Il était souriant.
Très souriant, s'exprimant bien, toujours disponible, etc. Et par ailleurs, évidemment, petit Obama, c'était aussi parce qu'il y avait un symbole. C'est-à-dire que la célébrité, c'est à la fois un travail médiatique pour construire au-delà de la performance, alors pas sans la performance, mais au-delà de la performance, un personnage public qui n'est pas juste le sportif, mais qui est le sportif en quelque sorte augmenté par sa visibilité et sa résonance médiatique. Et puis, en général, quand un sportif atteint un certain degré de célébrité, c'est aussi qu'il incarne quelque chose, sans doute en venir, il y a plein d'exemples, mais qu'il incarne quelque chose au-delà de la seule performance sportive. Et au moment de son éclosion, c'est l'hypothèse que je faisais, c'est que à ce moment-là, Mbappé représentait l'anti-Anelka. C'est-à-dire, on était après, pour ceux qui s'intéressent au foot, on était après le moment où Nicolas Anelka avait représenté le mauvais garçon.
La révolte des joueurs de foot de l'équipe de France à Krishna, en Afrique du Sud, effectivement. Et Anelka qui disait, lui, je préférerais qu'on ne parle pas de moi. Donc, effectivement, il y a cette idée qu'il y a deux figures qui sont peut-être les deux revers d'une même médaille, cette célébrité des sportifs sur lesquels vous avez travaillé, Manuel Chautet. Est-ce qu'on peut dire que en sautant du 18e siècle à Mbappé, on a oublié quelques-unes des étapes de cette mise en célébrité, en particulier des sportifs. Et cette mise en célébrité des sportifs, c'est beaucoup la fin du 19e siècle, avec des sports qui sont relayés par les journaux, en particulier un sport qui peut-être fournit moins de célébrité que n'en fournit le football aujourd'hui, c'est-à-dire le cyclisme.
Tout à fait, oui. Les premières vedettes sportives en France, c'est des lutteurs. Chose qui aujourd'hui un sport qui est complètement, enfin qui a été en déclin, c'est le cyclisme, notamment du fait du Tour de France, qui a rapidement un succès important. Ce sont aussi des boxeurs. Là, jusque au moins les années 20-30, il n'y a que eux. Alors il y a de temps en temps un athlète comme Jean Bouin qui a donné son nom à de nombreux équipements sportifs. Et le fait que ça se focalise sur ces sports, et en particulier donc la boxe et le cyclisme, a aussi partie liée avec le fait qu'il y a une industrie qui se met en place pour promouvoir ces sports et pour les promouvoir comme des spectacles. Parce que c'est le moment, le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, le sport moderne est inventé ou réinventé en Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle, voilà pour le dire vite. Mais ce qui apparaît dans certains sports, c'est que ces sports vont être érigés en spectacle. Donc le cyclisme et la boxe sont des sports professionnels. Il y a des entrepreneurs qui investissent dans ces sports. Et ce qui est intéressant, quand on regarde le profil de ces entrepreneurs, c'est que souvent, ils ont une double casquette, à la fois de journalistes et de journalistes sportifs, et aussi d'entrepreneurs dans des équipements sportifs. Il y a par exemple des gens comme Théodore Vienne ou comme Victor Breyer, qui sont vraiment structurants dans la création de lieux sportifs. Il y a aussi Henri Desgranges, donc, qui crée le journal Lotto. Le journal Lotto qui crée à la fois une compétition sportive, donc qui est le Tour de France, mais qui crée aussi un équipement, le tristement célèbre Vélodrome d'hiver, qui est un équipement voilà, qui est créé sur fonds privés. Et pour ces entrepreneurs, l'enjeu, c'est, en fait, notamment pour Desgranges, c'est de vendre du papier.
Donc d'imprimer la légende, comme on dit dans voilà. Liberty Valence. C'est-à-dire, si la légende est plus belle que la vérité, voilà. Imprimer la légende. Voilà.
Mais il faut aussi, pour qu'on puisse écrire une légende, il faut qu'il y ait des événements qui permettent d'écrire cette légende. Et donc, ils vont créer des épreuves sportives. Donc, ça se passe pour le cyclisme, avec notamment le Tour de France, mais beaucoup d'autres épreuves. Et soit dit en passant, encore aujourd'hui, le Tour de France appartient à un groupe privé, qui est le groupe Amaury, ASO, qui est aussi propriétaire du journal L'Équipe. Donc ces liens entre organisateurs de compétition et compétition perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc ces entrepreneurs, pour vendre du papier, pour vendre des vélos aussi, eh bien en fait, ils ont besoin d'événements qui mettent en scène ces équipements, ils ont besoin d'événements qu'on va pouvoir commenter et donc les créer. Ils ne font pas seulement les créer, je dirais, matériellement, mais ils les créent aussi symboliquement. En créant toute une histoire, finalement, autour de ces épreuves. Et avant l'épreuve, on parle de l'épreuve, on la met en tension, on la met en énigme, on la dramatise. Ensuite, on commente l'épreuve. Et donc, la presse sportive, très précocement, se spécialise dans le commentaire du spectacle sportif. Et un élément central de ce commentaire sportif et de la mise en avant de ce spectacle, ça consiste à mettre en avant des vedettes, des têtes d'affiche, et aussi rapidement en créant des rivalités. Avec l'idée, voilà, et jusqu'à encore aujourd'hui, on voit que ce modèle rhétorique, scénaristique est très structurant dans le sport, et ça se met en place globalement dans les années 1900-1910.
Voilà. Oui, alors il y a tout de même un contre-exemple qui est l'exemple sur lequel vous vouliez intervenir et que vous avez annoncé tout à l'heure, Antoine Lilti. C'est à la fin du XVIIIe siècle, un sportif dans les disciplines que présentait Manuel Chautet, c'est-à-dire la boxe, qui devient très célèbre, justement, avec cette même dynamique qui était décrite, puisqu'il s'appelle Mendoza, mais il doit se battre contre John Jackson, et on a inventé, d'une certaine manière, un combat entre un bon Britannique et un mauvais Britannique, ou en tout cas, on a fait en sorte qu'il y ait deux personnes qui soient sur un ring de boxe qui n'ont pas l'allure qu'ils ont aujourd'hui, puisqu'ils boxent à main nue, et c'est donc le boxeur Daniel Mendoza.
Oui, Daniel Mendoza, c'est un parcours très intéressant. C'est sans doute la première vraie célébrité sportive, célébrité de la boxe. On est au moment, donc c'est les années 1780, on est au moment où la boxe commence à... Alors, on n'est pas encore dans l'organisation comme à la fin du 19e siècle, avec des associations professionnelles qui organisent les combats. Mais on a néanmoins une organisation des règles. On passe du combat, du simple combat à main nue, vers l'idée du combat qui est organisé comme spectacle, avec un ring, avec une entrée payante, avec là aussi quand même des organisateurs qui vont faire financer, il faut trouver de l'argent pour organiser ces spectacles. Et Daniel Mendoza, qui est un juif anglais, un juif séfarade, dont le père est venu d'abord du Portugal, puis en Hollande, puis en Angleterre. L'Angleterre est à ce moment-là un pays qui est sans doute le pays le plus libéral dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à l'égard des Juifs. Et Mendoza vient d'un quartier très populaire où il fait des petits métiers, il apprend justement à se battre dans la rue. Et puis, dans les années 1780, effectivement, il organise des combats. Et on trouve très vite tous les traits, cette rivalité avec toujours les combats contre son grand rival.
Il s'appelait Humphreys et Humphreys. Il était surnommé le gentleman.
Le gentleman.
Donc lui, il y avait le petit juif contre le gentleman.
C'est ça. Mais en même temps, ce qui est plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, Mendoza, justement, il va très vite incarner la boxe comme le sport anglais. Parce que ce qui fait le succès de la boxe à ce moment-là, c'est que ça devient le sport anglais, le sport national, opposé à l'escrime, qui est considéré comme... Alors, on ne dit pas sport, hein, mais l'exercice physique des Français. Et donc, justement, donc c'est le sport national. Donc, c'est très intéressant, c'est que Mendoza va vraiment incarner, et beaucoup plus qu'Humphreys, lui va devenir la grande vedette nationale, grâce à un certain... Pourquoi ? Parce que là, c'est quoi comme contexte historique ? D'abord, c'est, je disais tout à l'heure, c'est la révolution médiatique avec la presse. Et là, les historiens ont travaillé sur Mendoza, montrent que tous les journaux faisait de longs comptes rendus des combats de Mendoza, donc c'était vraiment des événements médiatiques importants. Et c'est aussi la commerce qu'on a appelé, ce que les Anglais appellent, les historiens britanniques appellent la commercialisation des loisirs. C'est le moment où toute une série de choses qui jusque-là étaient des loisirs qui n'appartenaient pas à la sphère marchande deviennent commercialisées. Et donc c'est les théâtres privés, c'est les spectacles équestres et c'est les spectacles de boxe qui coûtent relativement cher, mais qui vont donc permettre à Mendoza de gagner beaucoup d'argent. Alors, comme beaucoup de sportifs célèbres, il va ensuite perdre cet argent et finir dans la misère, ce qui l'amène, dans les années 1800, à tenter plusieurs fois des comebacks. Donc, il est aussi la première célébrité sportive à avoir fait des tentatives récurrentes de comeback. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il écrit un art de boxer, qui est un énorme succès, qui devient une sorte de manuel de boxe. Il écrit ses mémoires. Et on a énormément d'images. Je pense que certains d'entre vous connaissent James Gillray, qui était le grand caricaturiste de l'époque napoléonienne. Et il a fait toute une série de gravures en couleur des combats de Mendoza qui circulaient dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle. Et Mendoza a été reconnu. Donc il y a plusieurs épisodes où il arrive dans une ville pour faire une exhibition. Il est immédiatement reconnu. On arrête son carrosse, etc. Et il faisait aussi des spectacles-exhibitions. Donc là, ce lien entre le sport comme performance, notamment dans le combat, et la mise en spectacle, y compris dans l'idée au moment où il commence à vieillir, il peut moins combattre, et ben ça va se transformer en exhibition, en spectacle, en combat pour de faux, mais qui deviennent des spectacles de théâtre. Et puis, fin 19e, on va retrouver ça, parce qu'en fait, une partie de la boxe va être liée en fait, d'abord au musical, hein, avec des spectacles de boxe qui sont encore insérés à l'intérieur de spectacles théâtraux. Mais je pense que vraiment, le point sur lequel je veux insister, c'est que à chaque fois, ces évolutions, l'émergence comme ça de nouvelles figures de célébrités sont liées à des transformations dans l'économie médiatique. Et début, pour revenir sur ce que sur le moment effectivement plus encore, parce que Mendoza c'est un précurseur en quelque sorte, et le moment où ça s'institutionnalise, où la célébrité sportive s'institutionnalise, c'est effectivement, comme le disait Manuel Chetet à l'instant, au début du XXe siècle, avec la boxe, il y a quand même grande figure de Georges Carpentier, et sa célébrité, on oublie souvent, il y a la presse bien sûr, mais il y a aussi le cinéma. Et le cinéma joue un rôle extrêmement important. Pathé signe les contrats de boxe et des matchs qui font la légende de Carpentier sont co-signés par Pathé, et les films des matchs sont exploités en salle hein, dans les années juste avant-guerre et après-guerre. Et donc il y a vraiment là, le cinéma va jouer un rôle extrêmement important de répercussion de cette célébrité.
Alors il y a deux choses qui sont très intéressantes en vous faisant dialoguer, c'est que ce que vient de dire Antoine Lilti, Manuel Chotet, c'est de dire qu'il y avait des spécialités nationales selon les territoires de certains sports, l'escrime était française, la boxe était anglaise, et qu'il y avait donc des capacités à s'exporter pour certains sports, d'autres à ne pas s'exporter. Et c'est une des questions importantes quand on traite de la célébrité des sportifs que de réfléchir à cette différence de notoriété selon les sports que l'on pratique. Certes, le football est devenu un sport mondial, ça n'est pas le cas du rugby, par exemple, et donc on peut être célèbre un peu partout, sauf dans des endroits très important en termes numériques, comme l'Inde, où c'est le cricket qui l'emporte sur le football.
Oui, tout à fait. En fait, là, quand on a pris l'un et l'autre l'exemple de Kylian Mbappé, avec cette idée que voilà, tout le monde connaît Mbappé, j'ai suggéré qu'il était sans doute le Français le plus connu au monde. Mais il faut aussi avoir en tête qu'un sport comme le football, en fait, ça, c'est un point d'aboutissement. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il n'y avait rien de naturel dans le fait que voilà, la compétence, l'habileté balle au pied puisse conférer une telle célébrité à ceux qui la possèdent. Et une des meilleures illustrations qu'on peut avoir de cela, c'est que dans certains pays du monde, le football est une pratique reléguée. Typiquement l'Inde, relativement aussi en Amérique du Nord, aussi en Océanie. Et si on veut avoir une bonne illustration de ça, je pense qu'il faut prendre le symétrique. En l'occurrence, le joueur de cricket aujourd'hui sans doute le plus connu au monde est un Indien qui s'appelle Virat Kohli, dont récemment personne n'a jamais entendu parler dans cette salle, et qui est, en termes, quand on regarde le nombre de le classement des sportifs qui ont le plus de followers sur Instagram, eh bien il est numéro 3 mondial. Donc numéro 1 c'est Cristiano Ronaldo, un footballeur, le deuxième c'est Lionel Messi, et le troisième est un joueur de cricket dont on n'a jamais entendu parler. Donc ça c'est une bonne manière, je pense, d'illustrer le fait que ces célébrités sont certes très étendue pour ce type de joueur, mais néanmoins régionale. Si on sait ici, régions s'entendant, on l'entend entendre plutôt de pays continents. Voilà, donc ça c'est un point, je pense, important à rappeler, qui oblige à avoir en tête que finalement la situation qu'on connaît aujourd'hui, eh bien, est un produit historique. Et moi, le but de mon travail, c'était précisément d'essayer de rendre compte de ce processus qui conduit à ce que début 20e, le football est une pratique tout à fait secondaire, tout à fait reléguée dans un pays comme la France. Comment cette pratique peut passer du statut qui est début 20e au statut qui est le sien aujourd'hui,
un siècle plus tard,
où les records d'audience à la télévision française sont systématiquement atteints lors de matchs de l'équipe de France de football masculine. Voilà, donc tout ce processus social sur lequel on aura le temps de revenir, qui s'est passé dans certains pays, mais pas dans d'autres. Donc ça, c'est vraiment, je pense, important à rappeler, pour voir qu'on a affaire à un produit historique et qu'il n'y avait rien d'évident dans ce...
Ça veut dire que vous pourriez produire une dystopie dans laquelle, par exemple, le football ne serait connu de personne un siècle après son invention ou un siècle et demi après son invention. Et on pourrait, au contraire, se passionner pour la pétanque, pourquoi pas, ou pour n'importe quel autre sport qui, aujourd'hui, reste marginalisé.
Oui, en l'occurrence, je pense que si on avait dit à un commentateur sportif en 1905, tu sais, dans un siècle, tous les gamins auront des maillots de foot en allant à l'école, il aurait dit mais non, c'est pas possible. En fait, parce que lui, il avait vaguement entendu parler de cette pratique, etc. Mais c'est une pratique tout à fait secondaire dans l'espace sportif de l'époque. Et d'ailleurs, le football donc, devient en France professionnel dans les années 30. Mais on peut estimer qu'il devient le sport numéro 1 à partir des années 70-80. Par exemple, un indicateur de cela, c'est les tirages du journal L'Équipe, Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que c'est à l'occasion de compétition footballistique que l'équipe fait ses meilleurs tirages. Jusqu'alors, c'était pendant le Tour de France. Très clairement, c'était ça qui était le produit d'appel numéro un de ce journal. Et c'est à partir des années 70-80 que le football prend le devant. Une autre illustration de cela, dans les années 30, une Coupe du Monde de football est organisée en Italie. Elle est gagnée par l'équipe d'Italie. Et le lendemain, la presse sportive italienne ne fait pas sa une sur cet événement-là, mais fait la une sur le Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie cycliste. Donc il y a une manière d'illustrer en fait le rapport de force qui existait entre les différentes disciplines. Et donc à ce moment-là, les grandes vedettes sportives étaient des boxeurs et des cyclistes.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que ces grandes vedettes sportives, par exemple de boxe ou de sport, de cyclisme, sont des individus. Ce qui va être intéressant peut-être, et vous pourrez peut-être en discuter l'un et l'autre, c'est de voir comment, dans une équipe, où ils sont 11 joueurs sur le terrain par exemple, on va sortir un individu ou deux de cette équipe pour en faire quelqu'un de différent des autres, alors que quand on boxe, on boxe seul, alors que quand on fait du cyclisme pendant longtemps, maintenant ça n'est plus le cas, on est seul sur son vélo, maintenant on a des équipes entières qui entourent le cycliste vedette, mais ça n'était pas le cas auparavant. Et donc, d'une certaine manière, cette singularité au milieu d'une masse est une question que vous vous êtes posée, Emmanuel Chautet.
Oui, tout à fait. Là aussi, de nouveau, on est habitué à ce qu'on mette en avant certains joueurs, Maradona, Platini, Messi, etc. Mais là encore, quand on regarde les choses dans le temps, c'était pas du tout évident que ça se passe ainsi. Là, dans le livre, je cite un extrait. Alors c'est Charles Simon, qui était un grand dirigeant sportif de l'époque et aussi journaliste sportif, qui en 1905 dénonce, je cite, « la manie de certains reporters de citer les noms d'équipiers dans les comptes rendus des matchs, sous prétexte qu'ils ont marqué plus ou moins brillamment quelques buts ». Donc lui défend une définition fondamentalement collective du jeu et refuse en fait que dans le compte rendu qu'on fait du match, on puisse citer nommément des joueurs. Non, maintenant c'est une équipe qui a gagné, donc il faut toujours citer l'équipe. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus du tout sur ce modèle-là, puisque ce qui prévaut, c'est vraiment une lecture très individualisée du jeu, qui se repère par exemple sur un plan contractuel. Dans un même collectif de travail, il n'y a pas deux joueurs qui ont le même contrat, mais aussi dans la manière dont on regarde ce sport, ou dans la manière dont il nous est donné à voir, par exemple les retransmissions télévisuelles. Jusque dans les années 60, le modèle qui prévalait, c'était celui du plan large. En fait, en gros, on voit tout le terrain. Et d'ailleurs, dans le livre, je cite un réalisateur de match de télévision des années 60, il dit filmer le football, c'est pas très compliqué, en fait, c'est du plan large. Aujourd'hui, on voit que la représentation qui est donnée du football n'est plus du tout celle-là. On peut objectiver que plus on avance dans le temps, plus c'est une représentation fragmentée qui va mettre l'accent sur des actions individuelles en produisant donc une vision atomisée du jeu. À cela s'ajoute aussi le fait un certain nombre de dispositifs qui vont contribuer à individualiser les joueurs. C'est par exemple dans le journal L'Équipe, le lendemain d'un match, chaque joueur se voit attribuer
une note,
c'est-à-dire une sorte de score, de coefficient individuel à la contribution de la performance collective. Il y a des statistiques qui sont de plus en plus individualisées. Il y a aussi des trophées individuels, comme le Ballon d'Or, par exemple. Et de fait, tout ça contribue à ce que ce jeu collectif, soit d'une certaine façon de moins en moins collectif, ou en tout cas que certains joueurs soient placés en situation de s'approprier finalement davantage que leurs coéquipiers le résultat de l'équipe. Et une illustration de cela, je pense que si on faisait le test ici, et que si je vous demandais de quel joueur vous vous souvenez de la Coupe du Monde de 1998, vraisemblablement le nom qui ressortira en premier, c'est Zinedine Zidane. Enfin, j'ai déjà fait le test et c'est toujours ce nom-là qui ressort. C'est intéressant de regarder, en fait, de reprendre en fait cette Coupe du Monde et de regarder quelle note Zidane avait eu à chacun de ses matchs. Et en fait, à part la finale, Zidane fait, du point de vue des commentateurs sportifs, une Coupe du Monde très moyenne. Il réussit même à se faire expulser de façon tout à fait idiote, etc. Donc, en gros, les commentaires ne sont pas du tout élogieux. Donc, c'est une victoire collective. Et au final, en fait, tout se passe comme si, en fait, ce succès collectif était... renvoyé à un seul individu. Et quand on regarde en fait les joueurs qui avaient eu les meilleures notes dans le journal L'Équipe le lendemain, c'est Marcel Desailly, c'est Emmanuel Petit, c'est Lilian Thuram, donc des joueurs dont les amateurs du football se souviennent, mais qui pour les autres sont sans doute davantage passés dans l'oubli que Zinedine Zidane.
Oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, Antoine Lilti, il y a sûrement quelque chose qui dit que la notoriété, la célébrité passe par autre chose que l'exploit soi-même. C'est-à-dire qu'il y a, il portait avec lui, Zinedine Zidane, cette idée de la France Black Bomber, de la représentativité du sud de la France, de Marseille, grande ville de football.
Oui, parce que la célébrité, elle est forcément individualisée parce que, il y a des dynamiques qui l'individualisent, parce qu'en fait, elle recoupe plusieurs choses. Et en cela, elle est différente, par exemple, de la pure performance qui va être justement, ou de la réputation qui va être marquée par des notes, par le fait de savoir quel est le meilleur joueur. Il y a bien d'autres éléments qui entrent en compte dans la célébrité, parce que la célébrité, c'est pas un simple régime d'admiration. C'est un régime plutôt de curiosité. C'est-à-dire que la célébrité, la personne célèbre, c'est celle sur laquelle vous avez envie de savoir le plus de choses. Et donc là, il y a plein d'autres éléments qui peuvent entrer en compte. Alors, ça peut être la façon dont un individu, pour des raisons qui peuvent être biographiques, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être caractérielles, va incarner un récit, va être symbolique. Donc il y a toute une série de récits qui vont pouvoir se mettre autour de lui. Donc avec Zidane, c'est particulièrement le cas, son enfance marseillaise, toute son histoire contrariée, y compris ses... Alors, Manuel disait qu'il avait été expulsé bêtement, comme... Tout le monde le sait, il a été à nouveau expulsé quelques années plus tard avec ce côté. Donc, mais ça fait partie aussi de la célébrité de Zidane, y compris ce côté un peu mystérieux, un peu incontrôlable de cette personnalité qui, lui, justement, à la différence de Kylian Mbappé, parlait pas très bien, mais en même temps avec ce côté...
Ne souriez pas beaucoup,
mais ça a contribué. Et donc, il y a autre chose qui est cette capacité à susciter à la fois de la curiosité et puis ce que les médias fabriquent, c'est-à-dire un désir d'intimité à distance, ce sur quoi repose la culture des fans, qui n'est pas exactement la culture des fans, n'est pas exactement la même chose que la culture des supporters. On peut être supporter d'une équipe, mais en fait, on est fan d'une personne, d'un joueur, et au cœur de ce désir d'intimité avec les célébrités, ça se traduit par exemple par quelque chose que moi aussi je retrouve depuis le 18e, qui est la réduction d'une personne à son prénom. Et alors, au 18e siècle, il y a un exemple très fameux, c'est le philosophe, écrivain Jean-Jacques Rousseau. Le public l'appelle Jean-Jacques. On dit toujours Jean-Jacques, on parle de Jean-Jacques Rousseau comme Jean-Jacques. D'ailleurs, lui-même, ça l'agaçait, ça l'énervait à la fin. Il disait, j'ai voulu reprendre le prénom que le public s'est approprié. Pourquoi ? Parce qu'il disait, ce Jean-Jacques, c'est pas moi. C'est un personnage presque de fiction que le public s'est inventé, Jean-Jacques. Et en fait, on voit ça dans l'histoire de la célébrité. Elvis, Marilyn. Donc moi, je dis, il y a vraiment célébrité quand il y a réduction à un prénom. Parce qu'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas par son prénom, c'est un geste d'une fiction d'intimité. Et avec Zidane, ça va même encore plus loin. C'est même pas Zinedine, c'est Zizou. Et donc, c'est le diminutif. Et appeler quelqu'un quand on dit entre nous, oh, quel but de Zizou, c'est très bizarre. C'est très, très bizarre, Zizou. Pourquoi Zizou? Parce que les médias ont réussi, on a tellement lu de choses sur lui, on l'a vu, on a appris, que c'est créer un lien qui n'est pas simplement le fait de savoir s'il est le mieux noté de l'équipe, au-delà de toute façon de la reconnaissance de son talent. Et Mbappé, ça joue aussi, on dit Kylian. Bon, c'est très bizarre aussi, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Kylian, hein? Et donc, le président de Total, qui gagne à peu près autant, on l'appelle rarement par son prénom ou par son diminutif. Donc, vous voyez, c'est... Il y a autre chose qui entre en jeu que la simple reconnaissance d'une performance exceptionnelle. Bien sûr, ça joue, c'est la base, mais il y a autre chose qui produit la célébrité.
Et puis, on peut se poser la question de savoir justement comment, au milieu de ce nombre, les footballeurs professionnels sont extrêmement nombreux en France aujourd'hui, eh bien, certains... certains vont être plus valorisés que d'autres. Et c'est ce sur quoi vous avez travaillé, c'est-à-dire comment se construit cette valeur d'un footballeur par rapport à ses voisins, comment se construit l'idée que eh bien, c'est celui qui marque le but, qui est le meilleur footballeur, ça n'est pas celui qui lui a fait la plus belle passe, ça n'est pas la construction de jeu collectif. Je ne sais pas si c'est vous chez vous que j'ai lu cette phrase d'un grand footballeur que j'ai beaucoup admiré en son temps, qui était Johan Cruyff, qui disait dans un match, vous avez la balle 3 minutes en moyenne, qu'est-ce que vous faites pendant les 97 autres? Effectivement, c'est vraiment 87 autres. C'est quand même une bonne question, parce que effectivement, si ça n'est que 3 minutes de jeu, ça n'est pas grand-chose. Donc c'est cela aussi, c'est comment on sort du lot, d'une certaine manière, Manuel Chautet.
Oui, pour que certains joueurs sortent du lot, il faut d'une part qu'il y ait une logique d'individualisation, sur laquelle on a déjà évoqué rapidement, mais il faut aussi ensuite qu'il y ait une hiérarchisation entre ces joueurs. Et ce qu'on voit très clairement apparaître dans le cas du football, c'est une hiérarchisation en fonction des postes occupés. Là, quel que soit l'indicateur que l'on prend, la visibilité médiatique, le salaire, les trophées individuels, c'est toujours les attaquants qui sont mis en avant. Voilà, la mise en avant des avant. Là, c'est vraiment quelque chose de massif. Alors même
parfois le buteur, parfois le gardien de but. Parfois.
En termes de. Non, en fait, le Ballon d'Or, il y a eu un seul gardien de but.
Ah oui, c'est sûr.
En termes de salaire, les gardiens de but sont très en dessous. C'est plutôt une tâche dévalorisée. Et là, une autre phrase de Johan Cruyff, hein, qui dit ceci. Dans une équipe, les défenseurs sont toujours les joueurs les moins forts. Toujours. D'ailleurs, s'ils étaient bons, ils joueraient attaquants. Donc on voit bien la logique en fait, qui prévaut de survalorisation de certains postes au détriment des autres, alors même que bon, voilà, pour gagner une compétition, il faut être 11 en fait. On ne peut pas la gagner si on n'a que des attaquants. Ça, c'est une première logique en fait, avec la survalorisation de certains postes. Ensuite, deuxième logique qui a partie liée, c'est la survalorisation de certaines qualités. Alors, en l'occurrence, c'est le brio balle au pied, c'est entre guillemets l'éclair de génie. En fait, les joueurs les plus valorisés, c'est ceux qui peuvent se permettre, non pas même de jouer, d'avoir le ballon 3 minutes, mais c'est d'être bon pendant 10 secondes. En fait, c'est là-dessus qu'ils sont jugés. Alors que le défenseur ou le gardien de but, lui, est jugé sur sa régularité. Donc, on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes qualités qui sont mises en avant et qu'en gros, donc, il y a une survalorisation, pourrait-on dire, du génie, du talent, sur la rigueur, sur... Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a des différences de qualité qui sont mises en avant, et tout ça converge donc à ce que les joueurs qui ont ces propriétés-là, eh bien, se retrouvent mis sur un piédestal par rapport aux autres joueurs qui, de sa façon, sont les faire valoir de ces joueurs et jouent pour les autres. C'est des choses assez connues, en fait, que ben, voilà, tout le monde n'est pas impliqué de la même façon dans les tâches défensives, etc. Donc, il y a des joueurs qui sont en charge des tâches ingrates et d'autres qui peuvent être complètement détachés de ces tâches jugées ingrates, mais qui sont toutes nécessaires à la victoire. Une illustration de cela, c'est à propos de Maradona. Il a été dit que Maradona a gagné la Coupe du Monde 1986 tout seul. Alors c'est vrai qu'il y a des exploits indéniables de Maradona à cette Coupe du Monde, mais il faut aussi rappeler que l'équipe d'Argentine est l'équipe qui a pris le moins de buts. À nombre de matchs égal, ou à même à moyenne de buts pris par match, en fait, c'est la meilleure défense du tournoi. Donc, certes, Maradona a marqué des buts, mais si l'équipe peut être victorieuse au final, c'est aussi parce qu'il y avait une équipe très solide qui l'accompagnait et qui rendait possible ses exploits individuels.
Et qu'est-ce qui, pour le public qui vient dans un stade aujourd'hui ou qui regarde des matchs de football à la télévision, qu'est-ce qui compte justement dans cette notoriété? Parce que j'imagine que ce public est varié, on le dit souvent, ça n'est pas un public simplement populaire, c'est un public qui est mélangé, il y a peut-être pas autant de cadres que de classes populaires, mais il y a des cadres qui sont présents ici, peut-être pas dans les mêmes endroits que les autres, dans les virages ou ailleurs, mais néanmoins c'est un mélange d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait que le public accorde son désir avec un personnage sur le terrain?
Alors, juste avant de répondre sur ce que vous disiez sur la composition sociale du public, c'est un cas intéressant. Le football, globalement, le public des stades est représentatif de la composition, la stratification de la société française. Donc voilà, il y a à peu près autant de cadres dans les stades qu'il y en a dans la société. Pareil pour les ouvriers. Donc, quand on dit que c'est un spectacle populaire, en fait, c'est lié au fait que dès lors qu'un spectacle n'est pas l'apanage des classes supérieures, comme je sais pas, peut-être le musée ou l'opéra, on a tendance à le qualifier de populaire, alors qu'il est simplement, dans le cas du football, représentatif de la structure sociale dans son ensemble. Avec néanmoins quand même une donnée importante, c'est que c'est un public très majoritairement masculin. À 90%, hein, et là, toutes les enquêtes qu'on a depuis les années 80 montrent que voilà, le public du football est masculin. Il y a peut-être une exception pour les grandes compétitions internationales qui sont un peu plus féminines, mais on n'a pas d'enquête qui le démontre précisément. Par rapport à ce que vous disiez, on manque d'enquêtes précises là-dessus, mais on peut faire l'hypothèse que le fait de se focaliser sur le buteur, sur celui qui va faire un exploit, en fait, c'est la personne dont les performances sont les plus faciles à identifier. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour dire « Waouh, quel beau but !» Par contre, pour trouver qu'un tel appel de balle est réussi, que tel repli défensif est particulièrement bienvenu parce qu'il emmène l'attaquant dans un coin, etc. Là, il y a sans doute une expertise plus grande, une culture footballistique plus grande à posséder pour pouvoir s'approprier ces gestes-là. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'on va être d'autant plus sensible à l'exploit individuel qu'on est un faible connaisseur du football.
C'est-à-dire qu'on se souvient tous d'un président de la République qui ne savait pas dire les noms de tous les joueurs de l'équipe de France lors de la victoire en 98 et qui était obligé de mimer les noms parce qu'il ne les connaissait pas. Donc ça fait partie de ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas particulièrement un connaisseur de football, mais il était présent par son rôle dans ce stade.
Tout à fait. Et je dis qu'on n'a pas beaucoup de travaux. Il y a quand même un travail qui a fait date dans les années 80, celui de Christian Pamberger, qui est un anthropologue, qui a fait un magnifique livre qui s'appelle « Le match de football » et qui s'intéresse au public du stade dans sa diversité et qui montre que voilà, selon l'endroit, donc lui c'est sur le stade de Marseille, il dit voilà, selon sa trajectoire sociale, en fait, on peut éventuellement faire tout le tour du stade, puisque chacune des stades est typée socialement. Et il montre que selon la tribune dans laquelle on est, eh bien, ce n'est pas les mêmes profils de joueurs que l'on aime. Et que dans certains cas, ça va être le joueur qui mouille le maillot. Dans d'autres cas, ça va plutôt être le brio individuel. Donc, en fait, le football est un signifiant polysémique, nous dit Bramberger, et chacun peut aller épuiser ce qui l'intéresse, en fait. Et donc, on peut trouver à s'incarner, les valeurs dans lesquelles on se reconnaît, on va les voir s'incarner dans tel joueur plutôt que dans tel joueur. Et certains peuvent apprécier le défenseur rugueux parce que voilà, il tient sa place, etc. Il se laisse pas faire, alors que d'autres vont préférer d'autres types de joueurs. Et on a des enquêtes, par exemple, sur la réception du cas Maradona à Naples. Et en fait, on interrogeait des gens à l'époque, il y avait quand même Maradona, vie dissolue, cocaïne, etc. Et ça. Mais non, en fait, il a raison, en fait. Si moi, j'étais à sa place, je ferais la même chose. Et en fait, finalement, la revanche populaire contre les grands, Naples versus Rome, etc., etc. Et que donc, il était une sorte de revanche par la ruse pour se reconstruire une dignité. Et en fait, il incarnait finalement toutes les valeurs napolitaines, enfin, telles que une partie du peuple napolitain s'y représente.
Alors, une des questions, on avance dans le temps, mais une des questions, pourrait-on dire, Antoine Litti, c'est comment cette célébrité vous fuit ? Parce qu'il y a un moment, on a été célèbre, et puis vous le disiez tout à l'heure, même pour Mendoza, on est obligé de se caricaturer soi-même pour pouvoir se maintenir à un niveau de notoriété suffisant et gagner sa vie. Et ça, ça n'est pas tout à fait évident. Et j'imagine que beaucoup de ces hommes et femmes célèbres du XVIIIe siècle que vous avez beaucoup côtoyés dans les archives, à un moment ou à un autre, s'interroge sur la pérennité de cette célébrité et peut-être la postérité qu'il pourrait avoir.
Bien sûr, alors c'est une des grandes spécificités effectivement de la célébrité, c'est d'être quand même très souvent éphémère, parce qu'elle est liée justement à l'intérêt, à la curiosité du public. Or, cet intérêt, cette curiosité du public peut varier très rapidement. Donc, il y a des effets de célébrité et de disparition qui sont liés en fait à des carrières, à des logiques de carrière. Donc, des sportifs qui n'ont plus les mêmes degrés de performance, donc qui arrêtent de boxer ou de courir ou de jouer au football, et donc dont on ne va plus parler. Et donc là, il y a des problèmes de renouvellement, et assez souvent, ça va passer par exemple par le spectacle. C'est d'où la proximité entre le sport et le spectacle. Et vous voyez, par exemple, des footballeurs, et notamment des footballeurs stars, qui essayent des reconversions, par exemple aujourd'hui dans le cinéma. avec des succès plus ou moins importants. Mais vous voyez comment quelqu'un comme Eric Cantona, qui était justement à la fois un sportif, mais un sportif qui avait construit un personnage et qui a essayé au fond, à un moment, de faire survivre sa célébrité en important dans le spectacle, au théâtre, au cinéma, le personnage qu'il
rugueux,
avait déjà.
Ce personnage rugueux qu'il était.
Donc, et puis, il y a... Et donc, comme je disais, ça existe déjà au XVIIIe siècle, avec des tentatives... ou alors des tentatives de revenir, mais aussi de transformer. Donc Mendoza, il va faire des exhibitions, il va faire des spectacles, où il joue en fait sur l'image qu'il a construite, mais en essayant de la renouveler. Et puis, il y a de toute façon un caractère éphémère qui est inscrit dans le principe même de la célébrité, et qui l'oppose justement à un principe de notoriété plus durable, qui est celui de la gloire. La gloire des héros, c'est au contraire, c'est plutôt ce qui est gravé dans le marbre, c'est la gloire des grands hommes, c'est la gloire des... Et avec cette idée de célébrité, il y a toujours, et déjà au XVIIIe siècle, c'est décrit comme tel, c'est la célébrité, c'est ce qui ne dure pas. C'est ce dont il faut profiter, parce que c'est... Et pourquoi ça ne dure pas? Parce que si on pense la célébrité comme un dispositif, en fait, de captation de l'attention du public, bien on le sait bien, il n'y a rien qui passe plus vite, parce que le régime médiatique qui consiste à créer toujours de la nouveauté. Et donc la célébrité, pour que ce soit célèbre, il faut que ce soit nouveau. Et c'est pour ça que, par exemple, les sportifs, mais c'est vrai que toutes les célébrités, ont besoin, pour rester célèbres, de continuer à être tout le temps au cœur de l'actualité. Alors l'actualité, ça peut passer par des performances. Donc effectivement, si tel coureur bat un record du monde, alors on va reparler de lui. Mais ça peut passer aussi justement par uniquement une activité médiatique. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui était, parce qu'on est quand même, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le foot, mais pour rester dans le foot, il y a quelqu'un qui est très fort pour ça, c'était Zlatan Ibrahimovic. Ah, tiens, Zlatan, encore un prénom. Même un nom propre, hein, Zlatané, à un moment donné. Donc, un nom commun. Donc, Zlatan. Mais Zlatan, c'est un très bon footballeur, mais c'était pas le meilleur footballeur de sa génération. Et donc là, son degré de notoriété, de célébrité, était totalement disproportionné par rapport à son palmarès de sportif. Il n'a pas un très gros palmarès, Ibrahimovic. Et donc, mais en revanche, il avait un bon palmarès. Enfin, ce n'est pas Messi ou Ronaldo. Mais en revanche, c'est vrai qu'il avait développé une compétence à susciter en permanence de la discussion médiatique par sa capacité de provocation, par sa façon de parler de lui, de construire un personnage. Et alors, ce qui est intéressant, auquel les gens pouvaient s'identifier ou que les gens pouvaient détester. Et ça, c'est un point sur lequel je veux insister. Par rapport au régime d'admiration qui est celui lié à la performance, un athlète qui réussit une performance extraordinaire, bon, on l'admire, tout le monde l'admire. Mais la célébrité, c'est beaucoup plus ambigu. Il y a des célébrités qu'on déteste ou des célébrités qui sont célèbres, dont on se moque un peu. Richard Virenc, qui a été quand même une grande célébrité à un moment... C'était compliqué, il y avait une célébrité d'adhésion, de gens qui s'enthousiasmaient, qui voulaient qu'il gagne, et après il y a eu une célébrité où on se moquait un peu de lui, j'ai été dopé à l'insu de mon plein gré, et pourquoi? Parce qu'il était devenu justement un personnage au sens propre, une marionnette. Et donc là on voit que la célébrité, elle est beaucoup plus ambiguë en termes de valeur. Et il arrive même qu'il y ait des gens qui soient célèbres, par exemple... parce qu'ils ont le sens de la répartie, parce qu'ils sont... Il y avait un coureur cycliste dans les années 50 qui s'appelait Richard Assenforder, qui était alsacien, et qui a été... Alors, c'était pas le... Il a gagné quelques étapes du Tour de France, mais enfin, il n'a jamais gagné le Tour de France, c'était pas Louison Bobet, mais en revanche, il était considéré comme le bout en train du peloton, et il avait tout le temps des bonnes réparties, et des blagues, et en 57, au Tour de France 57, il s'est même arrêté au bord de la route, il est parti se baigner, il est remonté, alors tout le monde en a parlé, et ce qu'on pense maintenant, c'est qu'en fait, il avait un accord avec Paris Match, il avait un accord avec le photo, et donc on a la photographie où il sort, alors à l'époque, il n'y a pas des photographies tout le temps, et donc on le voit sortir avec son vélo, il s'est baigné, il est tout collant, et en fait, on dit tiens, c'est incroyable. Et en fait, il avait un accord avec le photographe de Paris Match qui l'attendait pour qu'il se baigne. Voilà, donc il faisait des facéties. Il était très célèbre pour ça, presque plus que pour ses performances propres.
Et ça, Manuel Chautet, c'est vrai encore dans le sport d'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit les footballeurs changer de coiffure chaque saison parce qu'ils ont des accords avec les agences de presse pour qu'on puisse dire ben, ça n'est pas la photo de cette année, de cette saison, c'est la photo de l'année précédente. Donc, un coup, on met un petit coup de clair dans ses cheveux. Une autre fois, on se fait une raie au-dessus où on se coiffe à l'iroquoise. Tout cela, ça fait partie, effectivement, de ce mariage que vous avez bien décrit tous les deux, d'ailleurs, entre médias et célébrités sportives.
Oui, en fait, bon, les joueurs, alors, parfois se mettent en scène, parfois c'est presque à leur corps défendant, le cas de Virenque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit que il y a des choses qui se redoublent, en fait, que par exemple, leur notoriété va être mise au service de négociations de contrats et de bons contrats, mais la valeur économique du joueur va aussi être mise au service finalement de la notoriété du joueur. Le cas qui était vraiment frappant là-dessus, c'est quand Neymar arrive au PSG, donc en 2017, dans l'été qui précède. Donc toute la presse en parle, et quand je dis toute la presse, c'est vraiment du Figaro à l'Humanité, en passant par Closer, vraiment tout le monde parle de Neymar, et ce dont on parle le plus, en fait, c'est le montant du transfert. En fait, il est célèbre. Alors certes, il a des prouesses footballistiques, mais on parle surtout de lui pour finalement sa valeur économique. Donc la valeur économique vient conforter sa célébrité, et sa célébrité, bien sûr, est un levier de sa valeur économique, puisque pour les sponsors, etc., c'est intéressant. Donc on voit que certains joueurs peuvent se retrouver en situation finalement de cumuler finalement profit symbolique et économique. Et après, la question qui se pose, c'est finalement, qu'advient-il de tout cela une fois que la carrière s'arrête ? Là, il y a un collègue, Frédéric Razera, qui travaille de façon ethnographique sur des footballeurs, donc qui a fait un très beau livre qui s'appelle « Le métier de footballeur ». Et alors, il ne travaille pas sur les vedettes dont on parle ici, mais néanmoins sur des footballeurs professionnels, donc qui ont un niveau de notoriété souvent plus local. Et donc, une question qui se pose pour ces joueurs, c'est à quel moment on arrête ? Puisqu'en fait, la saison de trop, eh bien, c'est risquer finalement de tout perdre, en fait. Et en gros, les joueurs en fin de carrière, c'est essayer de trouver un club qui va pouvoir en fait leur permettre de durer encore un petit peu et aussi les aider à s'implanter localement. Donc, cette question de la conversion de sa notoriété en de l'installation locale est un vrai enjeu pour eux. Après, donc, la question de la durabilité de cette question de cette célébrité, il y a quand même des cas, je pense, où ça survit à l'arrêt de la carrière sportive. Là, typiquement, il me semble que quelqu'un comme Maradona, de ce point de vue-là, c'est assez fascinant, mais effectivement, parce qu'il y avait toujours des nouvelles choses pour alimenter, finalement, l'intérêt pour ce joueur.
Y compris une église.
Exactement, il y a une église maradonienne qui revendique plus de 100 000 fidèles de par le monde. Alors, c'est sans doute pour partie au second degré, mais néanmoins, ça contribue à faire exister ce personnage Maradona, même dans des arènes où on ne l'attend pas forcément. Toujours sur Maradona, il y a eu des documentaires sur lui. Emir Kusturica, qui, primé à Cannes, a fait un documentaire sur Maradona. Donc, en fait, on voit que les ressorts de sa célébrité, même post-carrière, sont très divers, en fait, et que ça s'alimente à différentes sources. Et comme le disait Antoine, en fait, ça ne peut pas du tout se limiter aux performances sportives. Il y a plein d'autres ressorts qui contribuent à alimenter le degré de visibilité et de célébrité d'un sportif, et ici d'un footballeur.
Alors,
en particulier.
Il y a un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté et qui est pourtant au cœur de votre travail, qui s'appelle donc la valeur du footballeur. C'est le point justement qui fait que ce footballeur généralement célèbre est issu de classes plus populaires que le stade que vous décriviez tout à l'heure, et qu'il est donc sorti de ces classes populaires, il est devenu une vedette, il est devenu une star, et que c'est assez rare, effectivement, dans les sociétés que nous connaissons, en particulier les sociétés occidentales, que de voir de telles progressions, et de voir, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, que Kylian Mbappé payait plus à l'année que le patron de Total, dont on conteste généralement les émoluments. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très intéressant qui correspond à une notoriété qui... est-ce qu'il y a une dimension morale à cette notoriété, à cette célébrité-là, en se disant tout compte fait c'est une revanche, des plus pauvres sur les plus riches dans une société qui se voudrait plus égalitaire qu'elle n'est. Quels sont les ressorts justement de cette notoriété ou de cette célébrité-là au point de vue financier ?
Oui, alors c'est vrai que le cas du football est extrêmement intéressant hein, du point de vue que vous venez de décrire, et il l'est même aussi à un autre titre. Donc le premier titre, c'est un univers qui consacre des individus très majoritairement issus de milieux populaires ou de petites classes moyennes, qui n'ont pas fait d'études et qui sont souvent issus de l'immigration. Donc c'est-à-dire des individus qui, structurellement, statistiquement, ne sont pas des très bons candidats à la réussite sociale. Quand on regarde les élites culturelles, politiques, économiques en France, ce n'est pas du tout ce profil-là. Donc là, ça c'est une première énigme. Mais deuxième énigme, c'est aussi qu'ils sont des salariés. Et ils se retrouvent dans une situation très particulière où, en fait, si on regarde la chaîne de commandement d'un club, ben, en fait, ils sont des salariés d'exécution. En fait, le joueur est sous la direction d'un entraîneur qui lui-même dépend de cadres dirigeants du club. Et dans le cadre du football, il y a toujours dans chaque équipe au moins un joueur qui gagne plus que son donneur d'ordre immédiat, l'entraîneur, qui lui-même gagne plus que les cadres dirigeants du club. Donc en fait, c'est une situation très atypique où ce sont d'une part des salariés, relativement subalternes dans la division du travail, et qui en plus ont le recrutement social que vous avez évoqué, qui sont sur le devant de la scène. Et donc ça en fait une sorte d'énigme, en fait, comment ça c'est possible. De fait, on voit, pour répondre vraiment directement à la question, que cette situation suscite un double discours, qui peut paraître tout à fait paradoxal, mais deux discours très différents qui cohabitent. Un premier discours qui va être un discours de valorisation. En fait, le cas du sport, en général, et du football en particulier, ben, un endroit, en fait, une sorte d'incarnation par excellence du mérite. En fait, c'est un univers, finalement, où il n'y aurait pas de barrière à la réussite, où même le plus petit, Franck Ribéry, qui naît dans le quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer, peut accéder au sommet de la hiérarchie mondiale de son sport. Donc l'idée, voilà, ça consacre le mérite, peut-être beaucoup plus que dans d'autres univers. Mais il y a un autre discours qui peut paraître contradictoire, qui est de critiquer cela. Et si on reprend le cas Ribéry, qui est comme quelqu'un sur lequel des formes massives de mépris social, de racisme de classe ont été mises en œuvre, il faut quand même rappeler que Ribéry parle allemand, parle italien, parle sans doute mieux certaines langues étrangères que des personnes qui le critiquent et le fustigent au nom de sa prétendue bêtise. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est le double discours dont les footballeurs sont l'objet, à la fois de survalorisation, et notamment quand l'équipe gagne, modèle équipe de France 98, et au contraire, les joueurs qui sont les mêmes structurellement, qui se font vilipender, les racailles de la République, etc., quand l'équipe perd, donc par exemple en 2010 en Afrique du Sud, dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, Antoine Lilti, sur ces aléas de la notoriété, pour être...
Oui, alors... Bon, ce qui est très intéressant, par exemple, sur la question alors, il n'y a pas que la question du salaire, mais sur la question du salaire et des inégalités de revenus, c'est qu'au XVIIIe siècle, on constate déjà l'émergence de ce type de polémique, et notamment autour des revenus des danseurs et de l'opéra ou des chanteurs, notamment en Angleterre, puisque en Angleterre, ce sont des théâtres privés. Alors en France, vous savez, c'est différent. Le théâtre ou l'opéra sont essentiellement, même si les théâtres privés commencent à se diffuser, sont essentiellement privilégiés, donc liés à la monarchie. Mais en Angleterre, on a un développement des théâtres privés et des opéras privés, qui est donc une augmentation des salaires et une mise en avant, justement, des vedettes. Et il y a un moment, un danseur de l'opéra de Paris qui vient faire des tournées à Londres, payé très cher par des entrepreneurs de spectacles londoniens, et dans la presse anglaise, ça suscite toute une série de polémiques sur le thème « il est beaucoup trop payé ». Et c'est quand même incroyable que quelqu'un gagne en une soirée pour danser autant qu'un honnête laboureur pendant un mois de travail. Et donc cette idée-là, on la trouve à ce moment-là, évidemment en lien avec le développement, les premiers éléments de cette culture de la célébrité, mais bien au-delà, ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire en fait la fragilité de cette notion de célébrité. On pourrait penser, en fait, la célébrité avait tout pour être la grandeur démocratique. Tout le monde peut y accéder. et elle repose sur l'avis du plus grand nombre, c'est-à-dire sur le public. Donc, au fond, c'était la valeur démocratique par excellence. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Si on suit du 18e jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu un discours... Alors, on a effectivement des formes de valorisation des gens célèbres, mais en revanche, on a presque toujours eu un discours extrêmement critique autour des mécanismes de la célébrité. Les gens disent cette idée que, finalement, la célébrité, c'est un peu vulgaire, que la célébrité, c'est éphémère, que, au fond, la célébrité, c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment de talent, que les gens qui ont vraiment du talent, eux, ils sont reconnus pour leur mérite, et que, finalement, la célébrité, comme disait un critique américain, c'est uniquement les gens qui sont connus pour être connus. C'est-à-dire, au fond, une espèce de dimension un peu tautologique de la célébrité, qui s'est encore plus diffusée aujourd'hui avec la télé-réalité, avec tous les réseaux sociaux, etc. Donc, tous ces éléments. Et donc, cette fragilité, moi, je l'interprète parce que, justement, dans son lien avec la notion de talent. Et au fond, on peut dire que à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française met à bas une société qui est une société hiérarchique où les inégalités, elles étaient très importantes, elles étaient criantes, mais elles étaient justifiées par un système idéologique très puissant qui était celui des corps, celui de la noblesse, celui donc d'une société hiérarchique. Elle met en place une société égalitaire. Mais dans cette société égalitaire, il y a énormément d'inégalités qui persistent, qui sont des inégalités d'emploi, qui sont des inégalités salariales, qui sont des inégalités de reconnaissance, qui sont des inégalités de notoriété, donc de célébrité. Et la notion qui est mise en avant pour justifier, c'est justement le talent ou le mérite. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, c'est les vertus et les talents. Et qui justifient, en fait, potentiellement, qui sont les nouveaux critères, en fait, du mérite. Et donc, on va avoir en permanence une espèce de tension au cœur de la modernité entre soit une critique absolue des inégalités, soit une tentative de justifier les inégalités à partir du talent, et donc plutôt qu'à partir de la célébrité, qui est, au fond, on a deux pôles d'individualisation très fort, mais la célébrité reste au fond une grandeur assez largement illégitime, sans doute liée à cette idée, à la méfiance autour des jugements du public, et au fait à l'idée justement que c'est une grandeur qui est à la fois très inégalitaire, puisque on peut avoir des écarts qui sont énormes, très rapides et difficiles à justifier, et en même temps qu'elle repose sur un jugement qui n'est pas assuré, puisque c'est une espèce de jugement immédiat qui est en fait l'acclamation de la foule, même s'il est ensuite médiatisé.
Manuel Chauté.
Oui, là-dessus, là où le sport est vraiment intéressant, c'est que, contrairement, je pense, à d'autres univers où il peut y avoir une très forte déconnexion entre ce qui engendre la célébrité et ce qui engendre la reconnaissance par les pairs, etc., je ne sais pas, on prend le cinéma... la célébrité va être du côté de Danny Boone et puis la reconnaissance par les pairs va être du côté de Jean-Luc Godard, donc avec une très grande déconnexion des deux côtés, des deux pôles. Dans le cas du football, en fait, c'est ceux qui sont reconnus comme les plus habiles, au regard des critères définis comme les plus importants, qui sont aussi les plus célèbres. Et ça, c'est vraiment un cas, je trouve, intéressant, en fait. Et du coup, ça rend peut-être difficile la critique de la célébrité en disant « bah mais en fait, c'est le meilleur ». En fait. Du coup, il y a vraiment ici une spécificité, je pense, liée au sport, qu'on retrouve moins dans les pratiques culturelles habituelles.
Oui, je peux dire un mot là-dessus, c'est qu'on va le retrouver à l'échelle de l'ensemble des sports, parce qu'en fait, on a des inégalités qui sont beaucoup plus difficiles à justifier entre la notoriété médiatique et la célébrité acquise, bah, par exemple, au football, et dans d'autres sports. Donc on peut avoir des sportifs qui sont extrêmement, qui ont des palmarès absolument considérables, et au fond qu'on connaît très peu parce que leurs sports ne sont pas médiatisés, plus la grande inégalité genrée, parce que pourquoi les... Voilà, toutes les célébrités sportives dont on parle sont des hommes. Et il y avait une enquête qui montrait d'ailleurs très bien que plutôt les célébrités, en gros, du show business, il y a des hommes bien sûr, mais sont plutôt féminines, et les célébrités sportives, évidemment, plutôt masculines. C'est en train de changer. Aux États-Unis, alors si on est dans le football, Rapinoe, aux États-Unis, et justement aussi pour ce qu'elle incarne et ce qu'elle représente, est une célébrité. Mais c'est vrai qu'en France, on peut considérer que c'est un énorme facteur d'injustice lié au mécanisme médiatique de l'attention portée aux hommes et aux femmes en sport.
C'est ce que j'avais levé la main pour évoquer ça, en fait, l'injustice première, c'est ça, c'est la différence entre le sport des hommes et le sport des femmes. Hein. À titre d'illustration, le joueur de football le mieux payé actuellement en France gagne à peu près 120 fois plus que la joueuse la mieux payée, voilà, pour donner un peu l'ordre de grandeur. Donc en fait, on a un niveau d'inégalité salariale qui est vraiment gigantesque en termes de visibilité, etc. On est sur c'est difficile de le mesurer aussi précisément, mais enfin, on est aussi sur des mondes très différents. Les seuls endroits où c'est peut-être un petit peu différent, c'est dans les sports étiquetés féminins. Par exemple, la gymnastique, les vedettes, les grandes vedettes historiques, Nadia Comaneci, Simone Biles actuellement, voilà, sont des pratiquantes. Mais c'est que dans quelques sports. De fait, quand on regarde la une de l'équipe, hein, il y avait un comptage qui a été fait de mémoire sur l'année 2017, donc à peu près 365 une, et il n'y en avait que 5 consacrées à des sportives. Illustration aussi de cela tout récemment, cet été, lorsqu'il y a la Coupe du Monde féminine de football, l'équipe de France est en quart de finale. Le quart de finale a lieu un samedi. Ce samedi est aussi le jour de la reprise du championnat de Ligue 1 en France. Dans l'équipe, ce jour-là, les 19 premières pages du journal sont consacrées à la reprise du championnat de Ligue 1, et ce n'est qu'après que le quart de finale féminin est évoqué. Alors que sportivement, on est bien sur des choses très, très différentes. Et de fait, quand on regarde le profil, à quelles conditions une sportive peut se retrouver en une de l'équipe, première condition, mais il ne faut pas qu'il y ait d'exploits masculins en même temps. Quand l'année où Julien Lafilippe prend le maillot jaune, c'est un jour où l'Olympique Lyonnais chez les femmes gagne la Champions League. Eh bien, la une, c'est Julien Lafilippe et pas le football féminin. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut être française. Donc, c'est uniquement quand les championnes françaises font des exploits et qu'elles ne sont pas concurrencées par des exploits masculins qu'elles peuvent se retrouver en une.
Avant de donner la parole à la salle pour quelques questions, ce cycle de rencontres a lieu au moment des Jeux Olympiques, en préparation des Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques qui laissent tout compte fait une faible part au football, qui est le sport le plus pratiqué, en tous les cas, et médiatique au monde. Est-ce que d'une certaine manière, ça n'est pas très intéressant que de voir comment cette institution qui s'appelle les Jeux Olympiques, née à la fin du 19e siècle, en même temps justement que ces sports que vous avez décrits tout à l'heure, Manuel Chautet, persiste en développement ou en maintenant des sports qui sont moins pratiqués, moins connus, moins célèbres, que ce soit le hockey ou des sports tels que l'escrime ou l'équitation, quand justement partout ailleurs, ce sont des sports bien plus populaires et bien plus rentables économiquement qui l'emportent.
Oui, alors de fait, c'est vrai que dans la hiérarchie des sports olympiques, le football arrive très très loin. Les sports dominants aux Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme, la natation, éventuellement aussi, enfin, la gymnastique, voilà, globalement.
Le rugby à 7 après l'arrivée d'Antoine Dupont,
les pays dans lesquels le pays a des chances d'avoir des médailles.
Oui.
Très concrètement, on peut faire l'hypothèse que cet été, si vous regardez les Jeux Olympiques à la télé depuis la France, il y aura beaucoup de judo. Par contre, si vous regardez les Jeux Olympiques depuis l'Angleterre, il y aura à peu près 0 minute de judo. Donc il y a vraiment un traitement très nationalisé de l'événement. Bourdieu parlait à propos des Jeux Olympiques d'une double production du spectacle sportif. Il est d'abord produit une première fois dans le stade, etc. Et ensuite produit une deuxième fois médiatiquement. Et je vous invite vraiment à faire l'expérience si vous êtes à l'étranger cet été. Et l'idéal, ce serait d'être une partie dans les JO en France et l'autre partie à l'étranger. Et vous verrez, ce n'est pas la même compétition qui apparaît. Et par exemple, on peut faire l'hypothèse qu'il n'y aura pas beaucoup de hockey sur gazon à la télévision française. Si vous allez aux Pays-Bas ou dans des sports où c'est un sport important avec des chances de médailles, il sera très diffusé. Voilà, peut-être pour moi.
J'ajoute qu'il est une troisième, à mon avis, on pourrait dire qu'il est produit une troisième fois, il est produit dans les commentaires suscités, parce que ça, c'est une chose qu'on connaît bien maintenant, justement, que les sociologues des médias ont très bien montré, parce qu'il y a la diffusion ou le récit dans la presse ou la diffusion à la télé, mais le moment où vraiment le spectacle et notamment la production de du vedettariat et de la starification se fait, c'est dans les discussions que suscite l'événement sportif médiatisé, et c'est là qu'au fond il est approprié par le public.
Merci beaucoup. On s'arrête ici et à la prochaine pour une nouvelle séance autour des jeux.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.